Europe 1.
Europe 1, 10h-11h, Mediapolis. Olivier Duhamel.
Bonjour à tous. Même le samedi de Pâques, on est sur le pont à Mediapolis. L'émission sur les rapports entre médias et politiques, réalisée par Jean-Luc Arblat, est préparée cette semaine par Hélène Terzian. Deux invités aujourd'hui, un historien, Jean Garrigue, qui suit tout, qui est professeur d'histoire contemporaine à l'Université d'Orléans. Et dernier ouvrage publié, La République incarnée, de Léon Gambetta à Emmanuel Macron, chez Perrin, cette année. Et Pauline Thévenot, qui suit Emmanuel Macron.
Bonjour.
Bonjour, qui a eu beaucoup de chance parce qu'on lui a demandé de suivre Macron en 2016, et puis paf, comme il est élu, et ben, c'est encore plus intéressant. Et du coup, elle vient de publier Les apprentis de l'Élysée avec Jérémy Marot, chez Plon, et c'est sorti il y a 10 jours.
Absolument.
C'est bien ça. C'est ça aussi pour vous, Jean-Garry?
C'est ça aussi pour moi, merci.
Bon, l'émission commence au mieux. Allez, Cantelou.
On va commencer avec un petit mot de Guy Carlier.
Eh oui, ma chère Julie, mes chers amis, à chaque fois qu'il y a un drame, c'est à moi qu'on fait appel, oui. Triste destinée. Alors, que dire ce matin? On a fait déjà une émission le lendemain de l'attentat de Charlie Hebdo. On a fait même des blagues 2 jours après le Bataclan. Alors, c'est vrai que ce n'est pas un triste barbecue qui va nous arrêter.
Oh là là.
Déjà, ma chère Julie, parce qu'il n'y a pas eu de mort, et ça, c'est déjà un miracle. Enfin, un miracle. Façon de parler, parce que franchement, si Dieu existe, c'est un peu ballot. Il pourrait faire attention à sa maison mère. Alors bien sûr, on ne va pas se mentir, ça va être très compliqué, vous l'avez compris, de vous faire rire ce matin, vu l'émotion générale. Tout ça est trop tôt, trop triste. On a tous encore en tête ces images horribles de Notre-Dame, les premières flammes, la flèche qui s'effondre, et surtout Garou qui dit à Hélène Ségara qu'elle est belle. Ça, c'est une image horrible qu'on n'oubliera jamais. Et je salue au passage Luc Plamondon qu'on vient d'écouter. Voilà, maintenant, il va falloir penser à l'avenir, la reconstruction. Ce que le génie français a construit en 1163, eh bien, soyez sûr que le génie français le reconstruira. Bon, avec l'aide de 2-3 ouvriers polonais et quelques sans-papiers quand même, faut pas se leurrer. Par contre, c'est vrai que l'original a été construit en 150 ans. Alors, chers amis, chers Français, chers habitants du monde entier, il faudra être un peu patient. Parce que Notre-Dame de Paris, c'est quelque chose. Ça se construit pas en 5 minutes. C'est pas un château gonflable pour les anniversaires.
Merci, Guy Carlier.
Alors, c'était pas Guy Carlier, c'était Nicolas Cantelou, mardi 16 avril. Et c'est très intéressant sur quand se produit une catastrophe aussi exceptionnelle que l'incendie de Notre-Dame, exceptionnelle en soi, exceptionnelle aussi parce qu'elle a produit des images spectaculaires suivies en direct avec une extrême angoisse de qu'est-ce qui va tomber, etc. Et il y a toute une quantité de discours contraints. C'est-à-dire l'homme politique, bah, c'est le summum du summum qui a été atteint par le hasard que Macron devait s'exprimer, faire une allocution et qu'il avait enregistré. Ça, on n'a quand même jamais vu ça dans l'histoire, mais il ne peut plus. Les hommes politiques ont tous sur le champ un discours consensuel d'émotion obligatoire. Les journalistes aussi, on va y venir dans un instant, les commentateurs, mais même les humoristes. C'est-à-dire les humoristes ne peuvent plus faire de blagues. Et si on voit le biais qu'a pris Cantelou, il a choisi un autre humoriste ironique, assez grinçant, Guy Carlier, mais qui se permet que 2-3 toutes petites blagues dans un propos général du même ordre que celui d'un éditorialiste ou d'un homme politique. Donc il y a comme une banalisation obligée du discours, on peut dire ça, Jean-Garry?
Oui, c'est troublant d'ailleurs, parce qu'au fond, bon, il s'agit d'un monument, il s'agit d'un bâtiment, a priori dénué de chair, mais qui a pris... figure qui a pris posture pour l'ensemble de la société, et bien d'un traumatisme qui touche justement l'humain. Et c'est ça qui est assez fascinant dans ce que représente ce monument, Notre-Dame de Paris, c'est qu'on a eu l'impression que la catastrophe était semblable à ce qui s'est passé pour Charlie, pour le Bataclan. Et donc à partir de là, vous avez forcément une sorte d'unanimité, provisoire d'ailleurs, parce que très très vite les polémiques ont ressurgi, mais il y a quelque chose effectivement qui, comme vous le dites, qui contraint la parole, qui contraint la parole publique, qui homogénéise au fond les réactions des uns et des autres. Mais le côté positif, c'est que cette homogénéisation, pendant quelques instants ou pendant quelques heures, elle fait quand même ressurgir ce fond commun qui nous lie. Il y a quelque chose dans ces pierres qui tiennent les unes avec les autres, il y a quelque chose de notre ciment national aussi. Et ça peut être intéressant. Bien,
vous étiez au journal, vous ?
Oui, absolument.
Vous étiez.
Oui, bien sûr. Et c'est très intéressant ce que vous dites sur ce ciment national. On l'a vu, il y a quelque chose de très intéressant qui s'est passé cette semaine. C'est la façon dont Emmanuel Macron a pris ce train de l'émotion liée à Notre-Dame. Souvenez-vous, c'était mardi soir. Il a finalement fini par faire une allocution présidentielle. Alors, ce n'était pas celle qu'on attendait sur les annonces de sortie du grand débat.
Mais juste avant, moi, j'étais lundi soir, là. Vous allez trop vite pour moi.
D'accord.
Lundi soir. Vous apprenez que Notre-Dame brûle vers 19h10, 20, quelque chose comme
oui,
ça.
Oui, c'est quelque chose comme ça.
À ce moment-là, on ne sait pas si Macron va maintenir ou pas son allocution.
Non, pas quand l'incendie, au tout début, quand l'incendie se déclenche.
Et là, on vous demande journal, vous, de vous renseigner là-dessus.
Mais oui, bien sûr, et très rapidement.
Vous avez une idée est-ce que on sait si ça a été discuté, s'il y en a qui disent il faut maintenir, ou est-ce que tout de suite ils ont dit
à l'Élysée à l'Élysée, la façon dont ça s'est passé, c'est que donc le président de la République était en train d'enregistrer son allocution quand l'incendie s'est déclenché. Ce qui se passe, c'est que sur le moment, pendant qu'il parle, personne dans son entourage, dans les gens qui l'entourent à ce moment-là, n'ose l'interrompre. Donc le président apprend ce qui est en train de se passer une fois que toutes ses annonces et toute son allocution est en boîte. Et à ce moment-là, par contre, il décide immédiatement d'annuler la diffusion de cette allocution. Tout de suite.
Lui.
Il ne se pose pas de questions. Oui.
Donc il n'y a pas de discussion.
Il n'y a pas de discussion. Il est évident que cette allocution devient hors de propos à ce moment-là.
D'ailleurs, le pire du pire pour lui, ça aurait été que, au lieu de se déclencher à 19h, l'incendie se déclenche à 20h05, ou 20h10.
Oui. Parce que ça aurait complètement annulé l'impact. Et ce qui explique aussi qu'il n'était pas question ensuite même de refaire une allocution, de refaire cette allocution dans les termes identiques le lendemain ou deux jours après. Moi, je pense même qu'aujourd'hui, cette allocution, elle est devenue caduque, parce qu'elle n'a plus de sens par rapport à ce qui s'est produit.
Vous étiez... D'ailleurs, vous voulez procurer l'allocution ?
Elle a circulé, effectivement, oui. Elle a même été diffusée sur Internet.
Ah oui ?
Oui. Il y a un site internet qui a publié des photos du texte.
Des photos, pas le,
alors,
pas le, pas
c'est...
le live.
Non, le texte du discours, le texte qui était sur le prompteur. Mais ce qui est intéressant,
est-ce qu'on sait est-ce qu'on a sourcé de comment il a été fuité au tout début ? Est-ce qu'on sait qui a donné le texte, pour parler clair ?
Non. Et je pense que ceux qui savent ne dévoileront pas leur source.
Moi, ça m'étonne pas que le contenu ait fuité, parce que si vous enregistrez devant des techniciens, des trucs, par définition, par définition, quelqu'un va rentrer, il va dire la vache, il a annoncé qu'il supprimait l'ENA, qui va le dire à Y, qui va le dire à Z, etc. En revanche, le texte même, ça, c'est quand même plus qu'un d'or, parce que c'est soit un conseiller très proche, parce que en plus, si je me trompe pas, s'il a fait comme l'allocution du lendemain, c'était prompteur et papier sous le nez, ce qu'il aime bien faire. Soit quelqu'un qui aurait pris l'enregistrement, tout réécrit. Enfin, c'est compliqué, le texte. On n'a aucune idée.
Non.
Même pas de comment, quoi.
Non, et encore une fois, je pense que ceux qui ont une idée ne dévoileront pas leur source.
Et donc, vous renoncez même à enquêter ? Je viens vous embêter, là, exprès.
Ah bah...
C'est... Enquêter sur le point de comment ça a fuité. Qui, au début ? Est-ce que vous enquêtez ? Est-ce qu'on vous a demandé d'enquêter là-dessus ?
Non.
Et pourquoi on n'enquête pas là-dessus ?
Ah, moi, je pense qu'il y a une question de secret des sources, pour le coup.
Oui.
Et après, ce qui est intéressant, je pense que l'enquête qu'il faut mener, c'est d'authentifier le texte et le fond du propos. Par exemple, quand on a cette liste d'annonces, il est important de recouper avec de multiples sources pour savoir
j'entends bien
les annonces
bien
que le président
du Parisien, j'entends bien. Ce qui me frappe et m'intrigue, c'est qu'avant même de savoir d'où vient la source, qui nous pourrait très bien ne pas être journalistique, je veux dire, secret des sources, très bien, mais il y a quand même un fait historique intéressant, qui est qu'il y a quelqu'un qui, à un moment donné, si c'est, mettons, supposons que ce soit un de ses conseillers, pas Benalla, mais un de ses conseillers, il n'était plus là, qui s'est permis de prendre une allocution prononcée, non diffusée, et donc, d'une certaine manière, caduque, pour le remettre à la presse, Vous trouvez ça vraiment normal, vous, Jean Garrigue? Vous me répondez dans quelques instants.
Olivier Duhamel sur Europe 1.
De 10h à 11h, vous retrouvez Mediapolis avec Olivier Duhamel. Et Olivier qui reçoit ce samedi Jean Garrigue, professeur d'histoire contemporaine à l'Université d'Orléans, et Pauline Thévenot, journaliste politique au Parisien.
Voilà, et Pauline Thévenot, qui a quand même des chefs, défend le fait qu'on n'ait pas enquêté pour savoir qui avait trahi, qui avait sorti le discours d'Emmanuel Macron, enregistré mais non prononcé à cause de l'incendie de Notre-Dame. Et Jean Garrigue, je lui demande ce qu'il en pense, et comme il n'a pas de chef, ça va y aller.
Ben, moi je dis oui, non, c'est quand même très, très étonnant, parce que c'est une allocution qui, en tout cas, avait une valeur très importante. On nous l'avait présenté comme quelque chose d'explosif, avec une surprise très très forte. Bon, on a vu que finalement, la baudruche s'était un petit peu dégonflée, qu'on était loin des attentes espérées. Et on se demande effectivement qui a pu, et ce serait évidemment important de savoir qui a pu faire fuiter. Je n'ose pas penser que ça soit quelqu'un de l'équipe d'Emmanuel Macron. J'imagine que ça doit être du côté des techniciens qui ont participé à cette allocution, enfin à l'enregistrement de l'allocution. Mais effectivement, par rapport au fonctionnement d'une équipe présidentielle, ça serait intéressant de voir exactement ce qui s'est passé.
D'autant que ça a fonctionné de façon assez bizarre, parce qu'on a d'abord eu des bouts qui ont fuité, et puis après, la totale. Donc en deux temps, quoi, un peu comme les feuilletons de Mediapart quand ils sortent une affaire.
Mais qu'il y ait eu des bouts, ça me paraît assez normal.
Parce les bouts, c'était inévitable.
C'était inévitable. Mais le texte lui-même, c'est plus étonnant.
Bon, je ne vous ai pas convaincu que ça serait intéressant d'enquêter, Pauline Thévenot?
Je ne suis pas convaincue par l'idée de faire la chasse à la taupe ou à la source, non. En revanche, ce que je trouve intéressant, c'est la réaction de l'Élysée face à ces fuites, qui a catégoriquement refusé d'authentifier le texte et qui nous disait « mais écoutez, cet enregistrement, comme il n'a pas été diffusé, il n'existe pas, il n'existera pas, on ne prendra pas la même bande, voilà, fermez
d'accord.
le banc ».
Fermez le banc. Bon, par ailleurs, on disait au début de l'émission que il y avait des paroles quasi contraintes, quelle que soit la fonction, le métier qu'on exerce face à un tel drame. Je voudrais quand même revenir un instant sur cette intensité de l'émotion. Écoutez ce témoignage qui a été recueilli par Théo Manval, reporter à Europe 1, dès le lundi soir, et alors que la cathédrale était encore en feu.
Moi j'ai des images, des grosses images qui vont me rester dans mon cœur, à mon avis, longtemps. C'est quand le bout de la chapelle, il est tombé au milieu. Là, j'ai eu mon cœur qui s'est déchiré parce que je tenais vraiment, je suis croyante, donc c'était la première fois que j'allais y aller. C'est choquant parce que pour les croyants, c'est le symbole. Le pire, qu'une cathédrale s'effondre.
C'est une catastrophe, quoi. Il n'y a pas de mots. Hein. C'est notre patrimoine. On ne peut être que choqué devant ce drame, en fait. C'est une catastrophe.
Et moi, j'ai envie de dire un truc, une grosse pensée à tous les pompiers là qui sont en train de sauver la cathédrale. Et j'espère qu'ils vont pouvoir la reconstruire et que dans quelques années, on vienne la revoir pour que on puisse se remémorer, pas les drames, mais les bonnes choses.
C'est intéressant parce que rien que dans un témoignage, on a deux raisons différentes de l'émotion. Cathédrale, je suis croyante, notre patrimoine. Et après, quand on réfléchit ou quand on échangeait autour de soi, je crois qu'on s'aperçoit que beaucoup de gens ont des raisons très différentes d'avoir eu... ça peut être par passion... esthétique pour une cathédrale gothique absolument exceptionnelle, ça peut être parfois religieux, ça peut être par amour de Victor Hugo et de Notre-Dame de Paris, ça peut être plus récemment par la passion pour la comédie musicale en question. Un type comme moi, ça c'est plutôt par ce qui a été mon métier toute ma vie et qui le reste, l'histoire politique, parce que je me souviens quand, très très jeune, quand j'ai vu que pour la mort de Gaulle, les gens venaient du monde entier dans cette cathédrale, je me suis d'abord dit mais c'est vachement important la France pour que les gens viennent comme ça du monde entier et puis ce lieu. Donc et puis je pourrais continuer comme ça. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est comment la diversité des jeux, des personnes, des jeux JE crée un nous puisque l'objet de l'émotion est le même.
Oui, ce à quoi il faut ajouter, me semble-t-il, et parce qu'on est dans une émission qui parle des médias, l'effet médiatique, c'est-à-dire que il me semble que le côté spectaculaire, notamment de la flèche qui s'écroule, irrésistiblement a fait rejouer, je pense, dans l'inconscient de beaucoup de gens, Ce qui s'est passé en 2001, le 11
septembre. C'est Jean Garry qui passe. Oui, c'est le seul vrai point commun, parce que oui, sinon, il n'y a pas de morts, il y a 3500 morts, il n'y a pas d'attentat, sauf découverte incroyable, c'est un attentat, etc.
Mais il me semble que cet aspect spectaculaire,
et puis la dramaturgie est la même.
Cette dramaturgie, voilà.
La dramaturgie, ça brûle, est-ce que ça va tenir ? La flèche tombe ! Est-ce que la tour va venir ? Image des flammes de l'intérieur de la tour, mais la tour va tomber, ça, alors là, on est vraiment dans le rappel pour ceux qui l'ont vécu.
Y compris les pompiers qui grimpent dans la tour nord, comme ils étaient grimpés dans une tour de
l'époque. Il y a une identité de dramaturgie, d'ailleurs, je pense que ce sont les deux, c'est pas si vous partagez ce point de vue, Pauline Thémiot, c'est, d'une part, enfoui en nous un attachement particulier à ce lieu, chacun pour sa raison, et d'autre part, l'événement exceptionnel, spectaculairement médiatisé.
C'est ça.
C'est la rencontre des deux qui provoque l'explosion d'émotions, si je puis dire.
Oui, avec un effet presque boule de neige dans l'émotion, puisque plus on en parle, plus ça nous émeut.
Mm-hmm.
Puis il y a quand même, là, puisqu'on parle de Notre-Dame, quelque chose qui est une perte inestimable, puisque précisément ces pierres, ces morceaux de bois qui partent en fumée... On pourra reconstruire Notre-Dame, on ne pourra jamais retrouver, c'est le propre d'un incendie finalement qui détruit tout, on ne pourra jamais retrouver ces matériaux qui ont traversé les siècles et qui ont été témoins de l'histoire. Donc c'est une disparition pure et simple.
Et du coup, comme le disait Jean Garrigue, au moins pour une partie des gens et pour une partie du microcosme, du sérail, ça ne dure pas très longtemps, les polémiques surgissent dans un instant.
10h-11h, Mediapolis avec Olivier Duhamel sur Europe 1.
Mediapolis continue jusqu'à 11h avec vous, Olivier Duhamel, mais avec aussi Pauline Thévenot, journaliste politique au Parisien et co-auteur de Les Apprentis de l'Élysée aux éditions Plon, et Jean Garrigue, professeur d'histoire contemporaine à l'Université d'Orléans et auteur de La République incarnée de Léon Gambetta à Emmanuel Macron aux éditions Perrin.
Et donc pour info, à 10h22, Mediapolis en direct, vous avez deux chaînes sur quatre sur les ultra jaunes, mais comme il y en a une qui est dans la pub, c'est un peu difficile. Donc on va encore être très 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 jaune aujourd'hui, puisqu'ils ont eu la bonne idée d'appeler leur truc Ultimatum 2. Alors s'ils appellent ça Ultimatum 2, évidemment que les chaînes s'y mettent. Nous, on a été aussi à dire que, Jean Garrigue l'avait prévenu tout de suite, les polémiques n'avaient pas tardé à surgir. Polémiques sur les riches donateurs. Écoutez, un des tout premiers... on va entendre deux voix. On va entendre celle d'un politique, Alexis Corbière, sur Europe 1 jeudi, et celle juste derrière de Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT, sur France Info La Faye.
On a vu d'un seul coup, au lendemain ou dans les heures qui ont suivi, une espèce de téléthon qui s'est transformé, en télé-vuitton, et c'était à la fin, on se demandait si c'était pas un nouveau jeu qui veut défiscaliser des millions.
Ça, c'était Corbière. Maintenant, Martinez.
Vous voyez qu'il y a des milliardaires qui ont beaucoup, beaucoup d'argent, vous vous rendez compte. En un clic, j'allais dire 200 millions, 100 millions, ça montre aussi les inégalités, ce que nous dénonçons régulièrement, les inégalités dans ce pays. Et j'aimerais connaître la position des salariés des groupes que dirigent ces PDG qui ont eu, à qui on dit vous coûtez trop cher, il n'y a pas d'argent pour vous augmenter. Vous voyez, il faut aussi de la mesure.
Il faut aussi de la mesure. Vous avez pensé quoi de tout ça, Pauline Thévenot ?
On voit bien, on parlait tout à l'heure de l'émotion nationale, de cette espèce de concorde et d'unanimisme. On voit bien que ce sont des instants dans lesquels chacun en profite aussi pour faire de la politique et pour tourner la focale là où ça arrange et puis pour servir un discours politique. Là, on voit bien, quand on entend Alexis Corbière, il est sur son créneau politique de la même façon que Emmanuel Macron, dans son allocution sur Notre-Dame, lui, en profite pour porter un discours d'unité nationale et puis pour amorcer justement ses annonces du grand débat qu'il fera la semaine prochaine, en enjoignant d'une certaine façon tout le monde à se réunir dans cette union nationale et reconstruire le pays.
Jean Garrigue, qu'est-ce qui vous a choqué, cette course à la mise en scène de leurs dons par les milliardaires, ou la réaction critique immédiate de Corbière et Martinez, ou les deux ?
J'allais dire les deux, mais ça, Choqué n'est pas le mot, qu'au fond, tout ça était complètement prévisible, justement.
Non, mais il y a des choses prévisibles qui sont choquantes dans le monde auquel on vient.
C'est vrai que c'était... Au fond, moi, j'avoue qu'en tant que citoyen, je n'ai pas été choqué qu'un certain nombre de grands patrons pratiquent ce qui s'est toujours pratiqué, d'ailleurs, une forme de philanthropie, d'évergétisme, qui fait partie de beaucoup plus de la culture anglo-saxonne. Mais,
c'est vrai qu'il y a quelque chose de paradoxal d'entendre des gens dire... 363 jours sur 365, les riches ils payent pas assez, les riches payent pas assez, les riches payent pas assez. Et puis quand les riches disent, je donne 5 millions, les riches ont plein de fric, qu'est-ce que c'est que cette histoire Et les riches qui se font de la pub, c'est un peu contradictoire.
Mais ça fait rejouer,
les riches, quoi qu'ils fassent, les pauvres.
Ça
si
fait rejouer
dire,
cette, les riches, c'est, les pauvres. Cette mythologie, ces mythologies de l'argent qui sont tellement présentes dans notre société. Moi, j'ai longtemps fait un cours là-dessus à Sciences Po, que vous connaissez bien, sur le poids de ces cultures, d'une culture qui diabolise l'argent, pour une culture héritée du marxisme, etc. Et puis, de l'autre côté, au contraire, une apologie de ces formes de philanthropie, de dons qui viennent des puissances patronales. Donc, tout ça fait partie d'un jeu.
Si j'avais été conseiller comme de Pinault ou d'Arnaud ou je ne sais pas quoi, j'aurais dit attends avant de dire que tu as donné. Ou éventuellement, si on t'interroge, dis que oui, tu as donné, mais que la somme, tu ne vas pas faire de la com. J'aurais dit un peu plus... Ça avait quelque chose d'un peu ostentatoire. Quand
même. C'est vrai. Et je crois que c'est ce qui a choqué aussi. C'est, mine de rien, c'est la valeur de ces sommes-là. Ce que ça représente. On le dit souvent, quand des sommes de cette ampleur sont maniées comme ça, par rapport aux citoyens lambda, par rapport à l'opinion publique, il y a un tel contraste.
Je vais tout de suite me contredire. Et oui, parce que c'était le milliardaire ton.
Oui, c'était le
milliardaire ton. Et donc, comme l'un file 100, l'autre dit « Ah ben, il faut que je file 100 aussi. Ah ben, moi, je file 200. Ah ben, Total peut faire savoir qu'il file aussi. Ah ben, si Total file, moi, je file. » C'est comme ça qu'on va au milliard. Hein? Donc, un milliardaire ton, ça a du bon.
Mais, en l'occurrence... Si nous accordons tous pour reconnaître qu'il y a eu catastrophe nationale et qu'il y a un effort collectif à réaliser, il faut admettre que chacun puisse être toléré dans cet effort.
Parfait. Alors, Pauline Thévenot, qui est femme très respectable, me fait pas signe qu'il serait peut-être temps de reparler de Macron. Donc, je le dis moi-même, on va revenir à Macron dans quelques instants.
Jusqu'à 11h, vous écoutez Olivier Duhamel avec Mediapolis. Et ce matin, vous recevez Olivier, Pauline Thévenot, journaliste politique au Parisien, et Jean Garrigue, professeur d'histoire contemporaine à l'Université d'Orléans.
Et 10h30, ça y est, les ultra-jaunes sont sur les 4 chaînes info pour leur acte 23. J'espère que ça ne va pas durer comme ça pendant des mois et des mois, voire des années, jusqu'à ma mort. Alors, Emmanuel Macron a donc prononcé une allocution qu'il n'a pas diffusée parce qu'il a appris immédiatement après qu'il y avait un incendie à Notre-Dame. Cette allocution a fuité. À la fin, le texte intégral. Pauline Thévenot du Parisien refuse d'enquêter dessus malgré mon insistance et celle de Jean Garrigue. Mais j'espère que ces chefs qui nous écoutent vont, eux, être convaincus et revenir vers elle. Mais il a prononcé une allocution le lendemain dans laquelle il a notamment dit
« Nous sommes ce peuple de bâtisseurs. Nous avons tant à reconstruire. Alors oui, nous rebâtirons la cathédrale Notre-Dame plus belle encore. Et je veux que cela soit achevé d'ici 5 années. Nous le pouvons. Après le temps de l'épreuve, viendra celui de la réflexion, puis celui de l'action. »
J'aime dans cette phrase, dans ces phrases, c'est « nous avons tant à reconstruire ». Et j'en ai repéré 4 ou 5 comme ça qui avaient une portée au-delà de Notre-Dame, qui était ce que nous allons faire pour Notre-Dame, ce que je voudrais faire avec vous dans l'acte 2 de mon quinquennat. On peut dire ça, Pauline?
Oui, absolument. Toute son allocution de mardi soir était à prendre à double sens. Comme vous le dites, on peut repérer plein de phrases, notamment, même, y compris lorsqu'il parle des pompiers qui avaient 20 à 25 ans, venus de tous les endroits, de tous les milieux. Si ça, c'est pas un appel à l'unité nationale de la même façon. Il parle explicitement de la grande continuité qui fait la nation française, changer une catastrophe en occasion de devenir tous ensemble, de devenir meilleurs. Ça, c'est sûr qu'il a, il a pris ce train-là pour lancer son grand appel à se réunir autour d'un projet. Et on entend forcément, même si le message est un peu crypté, quoique pas trop, autour du projet que je vais vous proposer dans les jours à venir.
C'est très étonnant, parce qu'à chaud, moi je me souviens, j'étais sur LCI ce soir-là, et à chaud, mes collègues faisaient un commentaire très Notre-Dame, Notre-Dame, et viendra le temps de la politique. C'est moi qui ai dit, mais vous rigolez, il n'y a pas de discours plus politique que celui qu'on vient d'entendre, puisqu'il ne cesse de faire le lien, sauf qu'évidemment, le lien n'est pas explicité. Mais on,
quasiment, quasiment. Quand il appelle à retrouver le fil de notre projet national, là je le cite, c'est explicite.
Oui, là c'est explicite. Les autres sont implicites. Ils ne prononcent pas le mot grand débat quand même.
Non, mais c'était évident pour tout le monde.
Voilà.
C'est ce que moi, c'est ce que j'appelle dans mon livre d'ailleurs.
Qui s'appelle
La République incarnée.
La République incarnée chez Perrin.
Et ce que j'essaye d'expliquer, c'est que l'incarnation qui ne fonctionne plus aujourd'hui, les présidents d'aujourd'hui ne peuvent plus incarner une société multifragmentée et totalement éclatée, au fond, construisent des formes d'incarnation par délégation. C'est-à-dire que la commémoration, par exemple, ou des événements de ce type permettent de s'adosser à l'événement pour construire une forme de rassemblement national qui n'existe pas en réalité dans les faits politiques, de construire quelque chose, une sorte de fiction en tout cas momentanée, qui permet à un moment X de leur donner cette capacité à représenter un effort national, à représenter justement cet effort de reconstruction dont ils parlent, en s'appuyant évidemment sur ce discours à double sens sur une société justement en crise que tout le monde à laquelle tout le monde a besoin de coopérer pour la reconstruire. Donc il y a quelque chose là qui est très frappant de ce qu'est devenu le discours politique, à défaut de ce que pouvait représenter un général de Gaulle avec son grand dessein et puis sa légitimité historique. Mais aujourd'hui, on peut essayer de s'appuyer sur ce qui s'est passé après Charlie, ce qui s'est passé après le Bataclan, pour reconstruire une forme d'unanimité.
Mais du coup, se pose la grande question, à laquelle évidemment on ne peut pas répondre. On ne peut pas répondre, mais on peut réfléchir à des précédents pour voir la diversité des scénarios, qui est-ce que cette incarnation dans la catastrophe est profitable à l'homme qui incarne, c'est-à-dire au chef de l'État. Je ne sais pas, moi, il me vient à l'esprit que George Bush Jr., après le 11 septembre 2001, c'est une incarnation qui lui a profité. François Hollande, après Charlie, comme après le Bataclan, c'est tout à fait spectaculaire parce qu'il prend dans un cas 20 points, dans l'autre 10 points de popularité, et deux mois après, il n'en reste rien. Et je peux prendre ces deux exemples. Il y en a d'autres, mais les incarnations dues à l'événement historique qu'on a soi-même fabriqué, type de Gaulle Churchill, c'est quand même un peu d'une autre nature. Mais si on prend ces deux exemples plus récents et contemporains, ça permet juste de dire qu'on ne sait pas et que l'incarnation dans la catastrophe peut vous porter au-delà de ce que vous étiez avant et durablement. Moi, ce qui m'intrigue plus, c'est comment elle peut disparaître du jour au lendemain et produire aucun effet. C'est-à-dire, à la limite, j'ai toujours pas compris sur François Hollande, si vous voulez.
Oui, mais qu'est-ce qui est plus fort ?
Est-ce que Macron va se hollandiser, entre guillemets ?
Mais moi, il me semble que c'est un point de vue peut-être trop pessimiste, mais il me semble que dans l'état actuel de notre société, dans la dynamique de l'évolution de cette société, j'allais dire que ce type d'incarnation est presque contracyclique. Je veux dire qu'elles sont vouées à l'éphémérité, elles sont vouées à la brièveté, parce qu'elles s'adossent à une société qui est tellement justement éclatée qu'elles sont impossibles à réaliser.
Est-ce que Pauline Théveniaud est aussi pessimiste que Jean Garry? Est-ce que ses interlocuteurs de la Macronie, auxquels elle a consacré enquête et livres, reste optimiste? Réponse dans quelques instants.
10h, 11h, Olivier Duhamel sur Europe 1.
Pauline Théveniaud, journaliste politique au Parisien, et Jean Garrigue, professeur d'histoire contemporaine à l'Université d'Orléans, sont vos invités ce matin, Olivier Duhamel, dans Mediapolis.
Ouais, et 3 sur 4 sur les ultra-jaunes, alors qu'il ne se passe rien. Quoi. Il y en a qui se promènent Gare du Nord, quelques centaines à Bercy. Il ne se passe rien, mais ce rien, on va nous le montrer encore toute la journée. Bref, nous étions, sur des choses plus importantes parce qu'elles se sont produites et qu'elles produisent des effets. Et notamment, nous étions sur l'allocution Très Notre-Dame, mais en fait Très Notre-Dame sortie grand débat d'Emmanuel Macron mardi dernier avant sa conférence de presse de jeudi qui vient. Écoutez le commentaire qu'en a fait Bruno Cotterès, chercheur au CEVIPOF.
Emmanuel Macron vient de reprendre des thèmes qui sont fondamentaux chez lui et qui sont très macroniens jusqu'au vocabulaire. On a retrouvé des éléments de langage très importants. La notion d'héroïsme, la notion de dévouement, la notion de faire France ensemble, et puis aussi la réflexion sur le temps, qui est très importante chez Emmanuel Macron dans tous ses écrits, très souvent dans ses discours. Ne nous laissons pas piéger par la hâte, la fausse impatience.
Donc, je vous posais comme question, Pauline Thévenot, de savoir si cette incarnation que les tragédies de cette semaine, Notre-Dame brûlant, a permis à Emmanuel Macron, peuvent lui autoriser une réincarnation durable de la fonction présidentielle. Éventuellement, votre avis, si vous en avez un et si vous vous autorisez à le donner. Ça fait deux conditions, évidemment, c'est beaucoup. Et aussi l'avis de son entourage, des macroniens sur lesquels vous enquêtez. Vous avez publié ce livre, Les apprentis de l'Élysée, chez Plomb.
Vraisemblablement, ce n'est pas une allocution sur Notre-Dame et un appel à faire union qui suffira. On voit bien, on a vu là, lors de la crise des Gilets jaunes, à quel point les mots sont profonds. Et d'ailleurs, si profonds que ça a fait la première césure du quinquennat. Peut-être y en aura-t-il d'autres, mais en tout cas, ce qui est frappant...
Les mots sont si profonds que les mots ne suffisent pas.
Absolument. Assurément.
Et la conférence de presse, alors, expliquez-nous. Jeudi, il va faire une conférence de presse. C'est à la fois la toute première et pas complètement. Vous pouvez nous resituer un peu?
Oui, alors, c'est à la fois un exercice inédit pour Emmanuel Macron, parce que jamais il avait convoqué une conférence de presse comme ça à l'Élysée pour parler de son projet, de son programme, et avec des questions ouvertes des journalistes. Il a déjà, en revanche, eu l'occasion d'échanger avec des journalistes, bien sûr. On se souvient de ses vœux à la presse, et également quand il recevait des chefs d'État étrangers à l'Élysée. Mais le format était tout à fait différent, puisque dans ce genre de conférence de presse bilatérale, il y a deux questions par pays. Voilà, c'est très cadré. Là, ça va être...
C'est un genre qui a été inventé par le général de Gaulle dans les années 60, qu'il exerçait avec un brio exceptionnel, allant jusqu'à répondre aux questions qu'on ne lui posait pas, qui a été brièvement repris par Georges Pompidou, mais plutôt sur un mode assez bien réussi. Et à partir de là, ça a foiré complètement à chaque fois. Giscard, évidemment, qui ne voulait rien faire comme ses prédécesseurs, alors, s'est mis à inventer des machins chicos, réunions de presse, trucs qui ont raté. Chirac, il a plutôt réussi ses trucs du 14 juillet qu'avait inventé Mitterrand, mais il a raté les conférences de presse. Mitterrand, les vraies conférences de presse, il n'en voulait pas. Sarkozy en a fait... Une avec un ou deux, avec Carla, c'est du sérieux, on voit les dégâts que ça a fait. Hollande, ils sont tous empêtrés, c'est tout à fait étonnant. Et là, ce qui va être intéressant, c'est donc jeudi qui vient, c'est que d'abord, c'est le choix de cela, n'est-ce pas? Je ne refais pas une allocution, puisque j'en ai fait une à l'affûté, et tout, c'est pas le même genre. Je ne vais pas faire avec deux ou trois journalistes, parce que j'ai déjà fait. S'ils sont gentils, on dit qu'ils sont trop gentils. S'ils sont méchants, on dit que ça abaisse ma fonction. Et donc, il revient aux sources mêmes de la... du mode d'expression choisi pour la parole présidentielle solennelle, c'est-à-dire la conférence de presse de Gaulle.
Et pour ne rien vous cacher, à ceux qui, à l'Élysée, quelquefois, m'ont demandé mon avis, je leur ai conseillé, mais mon avis n'a aucune importance, mais il n'empêche que je leur ai conseillé il y a très longtemps d'avoir recours à ce principe. Pourquoi ? Parce que, il me semble, et c'est ce qu'on se disait tout à l'heure en off, c'est que très clairement, Emmanuel Macron a voulu restaurer, quand il est arrivé au pouvoir, une forme de présidentialité, d'autorité de surplomb gaullienne. Et quel est l'exercice qui colle le plus avec ce type de surplomb, d'autorité, de fermeté, c'est la conférence de presse.
Et la conférence de presse, conseil répété de Jean Garrigue et catastrophe imprévue. et que cette catastrophe a annulé l'allocution, alors on écoute Gary.
Mais non, mais la conférence de presse permet à la fois ce surplomb et ce dialogue qu'on lui reprochait de ne pas instaurer avec les médias. Qu'est-ce qui se passe au début? On lui reconnaît la présidentialité, la cérémonie du Louvre, le décorum, etc. Il est un président qui n'est plus un président citoyen, qui n'est plus un président normal, comme François Hollande. En revanche, on lui dit, mais vous n'avez pas plus de contact avec les médias, c'est-à-dire que vous êtes un président coupé du monde, coupé des réalités. Il me semble que la conférence de presse, elle permet justement ce mix, si vous voulez, entre l'autorité, le surplomb, et en même temps, voilà, l'explication, c'est beaucoup mieux que les petites phrases à la Sarkozy dont vous parliez tout à l'heure, c'est beaucoup mieux que la disruptivité, ça donne un contact, un dialogue par le biais des médias. Moi, ça me paraît un bon moyen.
Quand Macron suit les conseils de Gary, Gary trouve que Macron a raison. Écolo, c'est normal. Et pendant ce temps-là, un petit rappel de comment tout ça a été reçu à l'étranger. Allez, dans quelques secondes, minutes.
Comme chaque samedi jusqu'à 11h, on vous retrouve, Olivier Duhamel avec Mediapolis. Et à vos côtés aujourd'hui, Jean Garrigue, professeur d'histoire contemporaine à l'Université d'Orléans et auteur de La République incarnée, de Léon Gambetta à Emmanuel Macron aux éditions Perrin. Et Pauline Théveniaud, journaliste poétique au Parisien et co-auteur de Les Apprentis de l'Élysée aux éditions Plomb.
Nous disions que l'incendie de lundi soir, Notre-Dame en feu, a suscité une attention et une émotion à travers le monde. Énormément de chaînes se sont mis en breaking news. Alice Baudry, qui dirige la stratégie de l'Institut Montaigne, m'a repéré des éléments soulignés par le Columbia Journalism Review, publié dès le lendemain. Aux États-Unis, l'histoire était partout. Les réseaux ont rapidement alerté leurs correspondants, perturbant leurs congés, et les journalistes n'ont pas arrêté de nous tenir au courant de la lutte des pompiers pour sauver la structure de la cathédrale. Les magazines, eux, ont publié des réflexions plus personnelles. Dans le New Yorker, Lauren Collins a rappelé une récente visite du toit de Notre-Dame où elle avait vu les travaux de rénovation. Et ce soir, j'ai réalisé que nous étions parmi les dernières personnes à y rester. Et puis dans The Atlantic, Rachel Donadio a observé au milieu d'une foule un bâtiment, je cite, qui avait survécu à 8 siècles de peste, de guerre, de révolution et aux nazis, et qui commence à tomber. Des messages d'amis du monde entier arrivent. Est-ce que tu vas bien? Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes tous choqués ensemble. Et évidemment, toutes les unes de journaux de la presse écrite le lendemain. Mais peut-être le plus frappant, c'est les breaking news sur les télévisions le soir même, quoi. C'est-à-dire, c'est là où on s'est rendu compte que c'était aussi un symbole de la France hors la France, Pauline Théveniaud.
Oui, c'est comme si on avait presque retrouvé quelque chose d'un universalisme qu'on pouvait penser avoir perdu avec toutes les oppositions géopolitiques qu'on connaît actuellement. Et Notre-Dame serait devenue un peu l'image, le vaisseau amiral de cet universalisme. C'est vrai qu'on aurait pu ne pas s'y attendre quand l'incendie s'est déclenché.
Oui, mais c'est finalement ça. Ça a reproduit au plan international ce qui produit au plan national. C'est-à-dire qu'on passe son temps à s'engueuler, il y a même une certaine violence nouvelle dans le discours politique, voire une hystérisation du discours politique, et puis il se passe ça, il y a l'expression d'un consensus vraiment qui n'existait en rien il y a deux siècles, ou au contraire c'était l'objet d'une querelle terrible, qui n'existait pas il y a un siècle et demi, ou en 1830 on a quand même saccagé Notre-Dame, etc. Et maintenant, Cette espèce d'unité enfouie qui n'a pas d'occasion si fréquente de s'exprimer et qui là ressort.
Oui, c'est ce qui s'était déjà produit au lendemain des attentats de Charlie en janvier 2015, de Bataclan aussi, mais surtout après Charlie. On se souvient tous ces chefs d'État qui étaient venus aux côtés de François Hollande. Ça faisait ressurgir des choses très, très profondes. Et particulièrement pour les Américains, avec ce lien avec le 11 septembre. Et cette image spectaculaire qui, quand même, pour eux, à mon sens, a une valeur très particulière.
Oui, Jean-Marie Colombani avait titré Le Monde, nous sommes tous Américains. Voilà. Eux, c'est nous sommes tous Français à ce moment-là. Merci infiniment à tous les deux. Et pour à tous les deux, donc, Pauline Théveniaud, Les Apprentis de l'Élysée aux éditions Plomb, c'est paru il y a quelques jours. Jean Garrigue, le titre exact.
La République incarnée.
La République incarnée de Gambetta à Macron chez Perrin, c'est pas, sorti il y a quelques semaines.
Quelques semaines.
Donc deux livres tout frais et tout bon sur tout ce dont on a parlé, que je vous recommande vivement. Et pour terminer en chanson, bah on a commencé par peut-être la chanson qui s'imposait, celle de la comédie musicale.
Il est venu le temps des cathédrales, le monde est entré dans un nouveau millénaire, l'homme a voulu monter vers les étoiles, écrire son histoire, dans le verre ou dans la pierre.
Bruno Pelletier, et puis on s'est dit... Non, allez, on va faire quelque chose d'un tout petit peu différent. Et quand il y a l'amélioration, c'est toujours Jean-Luc Arblade, hein, notre réalisateur, qui a trouvé que c'était bien de rendre hommage aux pompiers qui, semble-t-il, à un quart d'heure près, hein, ont sauvé la tour Nord et donc, par ricochet, la tour Sud. Et donc, il a choisi une chanson d'hommage aux héros, Heroes, David Bowie. David Bowie, Heroes, en hommage au formidable, à la formidable brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Merci à tous, merci à tous nos auditeurs et aux 100 000 de plus depuis la dernière vague en ces temps pourtant difficiles. Vous pouvez écouter, réécouter l'émission en podcast sur Europe1.fr. Vous pouvez aussi faire écouter la nouvelle série podcastique Les Présidents dans la tourmente, parce que ceux qui écoutent trouvent ça super. Par tous les canaux habituels, il y en a tellement que je ne les maîtrise pas. Et à la semaine prochaine.
Merci Olivier Duhamel. En effet, Mediapolis revient à 10h samedi prochain. En attendant, la matinée n'est pas terminée hein, sur Europe 1. Dans un instant, vous êtes invité à vous installer aux côtés de Laurent Mariotte pendant 1h30 à la table des bons vivants. Bonjour Laurent, bon, j'imagine qu'on parle chocolat aujourd'hui.
Bonjour Justine, pas de Pâques sans chocolat, hein, vous êtes d'accord? Alors on vous emmène en croquer de la fève à la tablette. L'œuf sera aussi de la partie grâce au chef Olivier Nasty qui nous aidera à le cuisiner sous toutes ses formes. Et puis nous recevrons la présentatrice des journaux de TF1 du week-end, Anne-Claire Coudray, pour partager un agneau pascal. Voilà, vous savez tout. À tout de suite.
À tout de suite, Laurent.